Le leader de la révolution islamique a déclaré aux plus hauts responsables du Hamas que Téhéran continuerait à soutenir, dans le cadre de sa politique immuable, les groupes qui combattaient le régime sioniste. Violente frappe israélienne sur Gaza, au moins 25 morts, et l'Iran appelle le monde à agir vite pour dénucléariser Israël. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré aux plus hauts responsables du mouvement de résistance palestinien Hamas que Téhéran continuerait à soutenir, dans le cadre de sa politique immuable, les groupes qui combattaient le régime sioniste. La politique immuable de la République islamique consiste à soutenir les combattants de la résistance palestinienne face aux occupants sionistes, a déclaré l'Ayatollah Khamenei lors d'une récente réunion à Téhéran avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Lors de cette réunion, le leader de la révolution islamique a déclaré que le régime sioniste bénéficiait du soutien des États-Unis et de leurs alliés européens dans sa guerre contre Gaza. Les crimes du régime sioniste à Gaza sont directement soutenus par les États-Unis et certains gouvernements occidentaux, a fait remarquer le leader de la révolution islamique. Au cours de la réunion, Haniyeh a informé l'Ayatollah Khamenei des derniers événements survenus à Gaza et des crimes commis par le régime sioniste dans le territoire assiégé ainsi que de la situation en Cisjordanie occupée. Samedi 4 novembre, un haut responsable du Hamas a révélé pour la première fois que M. Ismail Haniyeh s'était rendu en Iran ces derniers jours pour rencontrer l'Ayatollah Khamenei. La réunion a eu lieu quelques semaines seulement après que le Hamas a lancé une opération sans précédent dans les territoires occupés par Israël, tuant 1400 colons et militaires israéliens. Basé à Doha, la capitale du Qatar, Haniyeh avait rencontré auparavant le leader de la révolution islamique à Téhéran fin juin, quelques mois avant le début de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné les derniers propos du ministre extrémiste israélien du patrimoine d'utiliser la bombe nucléaire contre la bande de Gaza, qui est depuis un mois sous le feu de l'armée israélienne. La brutalité sans limite du régime sioniste contre le peuple palestinien opprimé à Gaza ces derniers jours, la menace de l'utilisation de la bombe atomique brandie aujourd'hui par un ministre du régime alarme le monde entier, a fait remarquer le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un post publié lundi matin sur X. Le monde devrait immédiatement se dresser contre ce régime fasciste et raciste et demander des comptes à ses partisans. En effet, le ministre israélien du patrimoine, Amichai Eliyahu, a déclaré dans une interview que l'utilisation de l'arme non conventionnelle contre Gaza était une option. Interrogé sur le sort des familles palestiniennes à Gaza après la destruction de la bande de Gaza, il a répondu « Ils peuvent aller en Irlande ou dans les déserts ». Eliyahu a ajouté qu'autoriser toute aide humanitaire à Gaza était une erreur. Il n'y a pas de civils non impliqués à Gaza. Il est également allé jusqu'à qualifier la population civile innocente de Gaza de nazis. Ces remarques interviennent en pleine campagne de bombardement sans précédent de l'aviation israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Le bilan des attaques génocidaires israéliennes a dépassé les 9 700 morts et 26 000 blessés, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le régime a également coupé l'approvisionnement en produits de base comme l'eau, l'électricité, les médicaments et le carburant vers l'enclave palestinienne, un des territoires les plus densément peuplés du monde, avec plus de 2 millions d'habitants. Le premier ministre irakien Mohammad al-Soudani est arrivé ce lundi 6 novembre à Téhéran pour une visite officielle. À la tête d'une délégation de haut rang, al-Soudani a été officiellement accueilli par le président iranien Ebrahim Raisi dans le complexe culturel et historique de Saadabad, au nord de la capitale Téhéran. Les deux hommes ont participé à une conférence presse conjointe. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que le régime israélien, fortement soutenu par les États-Unis et certains pays européens, commet des crimes odieux contre l'humanité et un génocide en Palestine, en particulier contre des enfants. Nous pensons que les bombardements israéliens contre Gaza doivent cesser le plus tôt possible et qu'un cessez-le-feu doit être établi, a-t-il dit. Le président iranien a aussi évoqué les positions partagées par Téhéran et Bagdad envers les crimes du régime sioniste contre la population palestinienne. Les attaques terribles du régime sioniste contre la population de Gaza sont un crime contre l'humanité, un exemple de génocide et d'infanticide de masse, commis avec le soutien des Américains et des pays européens, a-t-il dit. M. Raisi a également déclaré que les relations entre l'Iran et l'Irak s'améliorent de jour en jour sur le plan politique. Les deux pays mènent une coopération dans le domaine de la sécurité et je dois rendre hommage aux efforts de M. Al-Soudani pour mettre en œuvre l'accord de sécurité irano-irakien, s'est-il félicité. Cet accord contribue au désarmement des groupes hostiles et des contre-révolutionnaires et à la sécurisation des zones frontalières entre l'Iran et l'Irak. Le premier ministre irakien a pour sa part évoqué les efforts de son pays pour mettre en œuvre l'accord de sécurité Iran-Irak. Le gouvernement irakien s'efforce d'assurer la sécurité sur les frontières irano-irakiennes et nous ne permettons à aucun mouvement ou groupe de menacer les frontières de la République islamique d'Iran depuis le territoire irakien. Soulignant que l'Iran et l'Irak jouissent d'une très bonne situation géographique dans la région et dans le monde, il a affirmé que l'achèvement du corridor nord-sud profiterait à deux pays et à deux nations. Au sujet des développements à Gaza, le premier ministre irakien, Mohammad Shia Al-Soudani, a indiqué « Les crimes du régime sioniste contre la population de Gaza sont sans précédent, en particulier le massacre de femmes et d'enfants sans défense, opprimés avec des armes sophistiquées. C'est le signe de faiblesse, de l'échec et de l'incapacité des institutions internationales à remplir leurs obligations. Ceux qui ne veulent pas que cette crise déferle sur la région doivent exercer une pression sur Israël pour qu'ils mettent fin à ces massacres organisés, a-t-il ponctué. Le régime sioniste a mené lundi matin, 6 novembre, de violents raids sur Gaza, causant la mort d'au moins 25 Palestiniens. Les avions de combat israéliens ont bombardé Gaza 100 fois en moins d'une heure. Les médias palestiniens rapportent que ces attaques aériennes ont fait au moins 10 morts dans la région d'Al-Zawaït, au centre de Gaza, et 15 morts dans le quartier de Tal al-Sultan, à l'ouest de Rafah. Le troisième étage de l'hôpital pour enfants Al-Radisi et un logement dans le centre de Jabalia, dans le nord de Gaza, ont été également ciblés. Ralibou, dans le nord de Gaza, la ville de Khan Younes, plusieurs quartiers peuplés dans les camps d'Al-Shati et de Jabalia ont également été bombardés. Des milliers de Turcs se sont rassemblés devant une base aérienne de l'armée américaine pour exprimer leur indignation contre le soutien de Washington aux crimes du régime sioniste dans la bande de Gaza. Suite aux protestations populaires dans de nombreux pays du monde contre les crimes du régime sioniste dans la bande de Gaza, des milliers de Turcs se sont rassemblés devant la base aérienne américaine à Incirlik. Ils ont scandé des slogans en soutien à la Palestine et contre le régime sioniste. Les images publiées dimanche 5 novembre montrent que des protestataires tentaient d'entrer à l'intérieur de la base, mais les policiers les ont dispersés en utilisant du gaz lacrymogène. En Indonésie aussi, des millions de citoyens indonésiens ont manifesté en soutien aux Palestiniens, condamnant les crimes du régime sioniste envers les Palestiniens. Le sous-marin nucléaire russe Empereur Alexandre III a effectué avec succès un lancement d'essai du missile balistique Boulava en mer Blanche, a rapporté dimanche 5 novembre le ministère russe de la Défense. Le tir du missile intervient 3 jours après que le président russe Vladimir Poutine a signé une loi sur la révocation de la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur fond de conflits en Ukraine et de crise avec les Occidentaux. Dans ce contexte, le Kremlin a déclaré que le président américain Joe Biden devait modifier la position de Washington à l'égard de Moscou afin de reprendre les contacts avec son homologue russe Vladimir Poutine. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le camp Jabalia Gaza rappelle le massacre de Sabra et Shatila en 1982. Le camp de réfugiés de Jabalia, le plus grand camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza, a été pris pour cible à deux reprises cette semaine. Des frappes qui ont fait des centaines de victimes, pour la plupart des enfants et des femmes. Le premier bombardement contre le camp de réfugiés, qui abrite 116 011 personnes vivant sur une superficie d'1,4 km², a eu lieu mardi, suivi d'un autre mercredi de massacre. Les deux frappes ciblées, survenues au milieu de la campagne de frappes aériennes contre la bande assiégée, ont tué au moins 195 Palestiniens et blessé 777 autres, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le camp de réfugiés a été initialement créé à la suite de la guerre israélo-arabe de 1948 et de la Nakba qu'a suivi, lorsque les Palestiniens ont été contraints d'abandonner leurs maisons et leurs biens et de se réfugier dans des camps dispersés à travers le territoire soumis au blocus. Ce camp est également important car il a été le principal site de la première intifada en 1987 par les Palestiniens contre l'occupation et l'apartheid du régime sioniste. La destruction du camp de réfugiés de Jabalia conduit à une comparaison avec ce qui s'est passé au Liban en 1982, lorsque le régime sioniste a envahi le pays arabe pendant la guerre civile. En septembre 1982, le régime sioniste voulait cibler le bureau de l'OLP à Beyrouth, lequel s'est retiré immédiatement après la menace. Or, malgré les assurances données par les alliés israéliens, y compris les États-Unis, que les réfugiés et les civils ne seraient pas blessés, le régime israélien et les phalanges libanaises ont perpétré l'un des pires massacres de l'histoire de l'humanité entre le 16 et le 18 septembre. Les phalanges sont entrées dans les camps de réfugiés de Sabra et de Shatila, adjacent à Beyrouth, où vivaient des milliers de réfugiés palestiniens et de civils libanais. Les envahisseurs ont massacré, violé, torturé et mutilé les corps de milliers de réfugiés. Ils n'ont fait preuve d'aucune pitié, ont commis des atrocités indescriptibles, tuant tous ceux qu'ils rencontraient avec des fusils, des couteaux, des haches ou des grenades, massacrant ainsi 2 000 à 3 500 musulmans libanais et civils palestiniens. Le ministre israélien des Affaires militaires de l'époque était Ariel Sharon, qui est ensuite devenu Premier ministre. Il était directement responsable du massacre en le facilitant et en le supervisant. En 1983, une commission d'enquête a estimé que Sharon portait une responsabilité personnelle pour son incapacité à empêcher le massacre et lui a recommandé de démissionner de son poste. Le massacre a été largement considéré comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Mais personne n'a jamais été poursuivi ou puni pour cela. Le régime ayant fourni une couverture à Sharon et à ses complices. Les survivants du massacre souffrent encore de traumatismes et de chagrin. Et beaucoup vivent encore dans les camps de Sabra et Shatila, qui restent à ce jour des camps de réfugiés pauvres et surpeuplés. Les bombardements contre le camp de Jabalia ont rappelé des souvenirs déchirants de Sabra et Shatila, tous deux perpétrés par les mêmes forces avec la même intention.